Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Bouris.
Olivier Roux.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, vous allez entendre tout au long de cette émission un mot anglais, compliance, que les entreprises du monde entier ont appris à utiliser au cours des dernières années. La compliance, en français, c'est la mise en conformité. La mise en conformité avec des règles déontologiques, éthiques, morales dans le monde des affaires. Ne pas corrompre, ne pas être corrompu, ne pas polluer, ne pas frauder en sont quelques exemples. Cela concerne beaucoup les entreprises des pays développés qui s'installent à l'étranger, mais pas seulement. L'objectif de cette compliance, c'est de moraliser, d'assainir le fonctionnement de l'économie, de la rendre plus vertueuse. Comment ? Quel impact pour les entreprises, pour les citoyens, pour l'économie en général de cette mise en conformité ? Et quels sont les enjeux cachés de ces règles ? Telles sont les questions que je poserai aux trois invités que je vous présente maintenant. Bonjour Henri-Jacques Citroën.
Bonjour.
Henri-Jacques Citroën, vous êtes senior vice-président d'une société qui s'appelle ADIT, ADIT, qui fait de l'intelligence stratégique et de l'éthique des affaires. Vous avez longtemps vécu au Venezuela, pays avec lequel vous gardez des attaches. Vous y avez mis au point une forme novatrice de relations avec les entreprises et leur environnement économique et social. Vous avez baptisé cette théorie ou cette forme de relation alliage sociétal, on en parlera dans l'émission, et à ce titre, vous avez conseillé des entreprises comme Total ou Sanofi, pas n'importe lesquelles. Avec vous dans ce studio, l'avocat Fabien Ganivet, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Bouris.
Fabien Ganivet, vous êtes avocat, spécialiste de contentieux pénal des affaires au sein d'un grand cabinet international, DLA Piper.
C'est ça.
Vous y travaillez beaucoup aussi sur les questions de conformité et de prévention des risques. J'ajoute qu'avant d'être avocat, vous étiez magistrat et que vous avez également travaillé dans des cabinets ministériels. Enfin, je termine cette présentation par vous, Marc Langlais, bonjour.
Bonjour.
Marc Langlais, vous êtes professeur associé à Neoma Business School. Vous menez des recherches qui s'inscrivent dans le courant des études sociales de la finance. Vous avez publié en 2016 un livre collectif intitulé « La fabrique de la finance » aux éditions Septentrion. Dans ce livre, qui vient tout juste d'être traduit en anglais, vous affirmez qu'il existe de multiples interprétations possibles du phénomène financier, qu'on ne peut se limiter au prisme hégémonique de la théorie financière orthodoxe. Pour vous, la finance est le fruit de bricolage, de hasard, de rapports de force, de compromis. J'ajoute qu'avant d'enseigner, vous étiez chargé de compliance, de la mise en place des mesures de conformité dans une grande entreprise financière. Vous avez donc été sur le terrain. Au cours de cette émission, nous avons rendez-vous avec le reporter de RFI, Olivier Roger à Paris et Eric Sanson à Quito en Équateur. Alors j'ai donné tout à l'heure une définition somme toute sommaire de la compliance, de la mise en conformité en présentant l'émission. Je voudrais vous demander à tous les trois de compléter ça. La compliance, c'est quoi, Fabien Ganivet ?
C'est d'abord une matière composite et très évolutive, mais pour dire les choses assez brièvement, c'est l'ensemble des actions qu'entreprend une entreprise pour respecter naturellement la loi et les règlements qui lui sont applicables, mais aussi des engagements volontaires auxquels souscrit l'entreprise en fonction d'un certain nombre de valeurs auxquelles elle croit pour précisément s'inscrire dans la durée de ses actions et de son activité.
Ça n'est pas simplement respecter certaines lois.
C'est bien naturellement le prérequis, mais je pense qu'il y a autre chose derrière la compliance, il y a vraiment une démarche véritablement volontaire qui est inclue dans ce mot de compliance.
Henri-Jacques Citroën, vous, la compliance, vous en avez fait au Venezuela en particulier, vous en faites aujourd'hui ?
On le fait surtout aujourd'hui dans le cadre de l'ADIT, puisqu'on aide les entreprises à mettre en place les dispositions qui sont exigées par la loi Sapin 2.
Donc, en France,
oui, c'est une loi qui a été promulguée l'année dernière. Il ressemble aux lois qui existent depuis longtemps déjà aux États-Unis, en Angleterre, et des lois qui sont promulguées un peu partout dans le monde, puisque finalement c'est devenu une grande tendance.
Marc Langlais, la compliance pour vous, pour le professeur, c'est quoi ?
Oui, je suis assez satisfait des compléments qu'on a
fait. Vous leur mettez une bonne note ?
Exactement. Ce qui m'importe, moi, dans la notion de compliance, c'est la dimension d'une part, effectivement, de mise en conformité, avec des problèmes de traduction d'ailleurs de l'anglais au français qu'on évoquera peut-être, mais davantage encore l'aspect donc de bricolage de la vie ordinaire, si je puis dire, puisqu'il ne suffit pas d'édicter une loi pour que celle-ci soit appliquée immédiatement. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir les mécanismes interprétatifs auxquels la compliance peut donner lieu dans
par
le cours
exemple.
Ordinaire. Et ben, par exemple, quand on vous dit sur un marché financier qu'il ne faut pas manipuler un cours, ça veut dire à la fois quelque chose de très clair et de très obscur, puisque manipuler un cours, eh bien, ça se décide dans une interprétation partagée, ça se décide dans une discussion avec les opérateurs, et parfois la décision qui mène l'opérateur à s'engager dans un acte ou pas, ne fait pas l'unanimité.
Mais si on vous comprend, la compliance voudrait dire plus de spéculation ?
C'est un peu difficile de réduire, on va dire, l'équation à ces deux termes qui sont très, enfin, qui mériteraient d'être définis. La compliance, ça consiste aussi à essayer de trouver des solutions pour faire en sorte que les activités puissent se déployer là même où la règle n'est pas claire. Et il est très rare, en définitive, dans la vie ordinaire des pratiques d'entreprise que les règles soient claires. Une règle claire, pour moi, c'est un feu rouge, on sait qu'il faut s'arrêter. Un feu vert, on sait qu'il faut passer en faisant un peu attention. Mais la vraie vie, c'est la plupart du temps de l'orange. Et l'orange, ma foi, est sujet à discussion.
À quand remontent les premiers pas de cette compliance, de cette mise en conformité, Fabien Ganivet ?
Je dirais en tout cas à l'échelle américaine en 1977, c'est la grande loi de référence en la matière, le FCPA. Évidemment, en Europe, c'est un peu plus récent. Enfin,
restons aux États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé en 77?
Effectivement, pour la première fois, en tout cas pour une législation de cette ampleur, le gouvernement américain, le Parlement américain a mis sur pied une loi destinée à prévenir et réprimer, donc avec les deux aspects, en amont et en aval, si je puis dire, les comportements infractionnels en matière de corruption, et en ciblant plus particulièrement la corruption d'agents publics à l'étranger. Donc c'est vraiment une loi qui fait référence au-delà des États-Unis à l'international, puisqu'ensuite il y a eu beaucoup d'engagements qui en sont découlés, ou un certain nombre de...
Quand vous dites corruption d'agents étrangers, d'agents publics à l'étranger, c'est-à-dire d'agents étrangers ou d'agents publics américains à l'étranger ?
On vise surtout les opérations, effectivement, qui concernent les activités hors du territoire naturel du pays qui édicte sa législation. On parlera, j'imagine, beaucoup d'extraterritorialité, qui est désormais quelque chose d'absolument cardinal en l'espèce, c'est-à-dire que l'on se place du point de vue des États-Unis ou du point de vue de la France, dès lors qu'on est une grande entreprise et qu'on agit, comme c'est la plupart du temps le cas, hors de ses frontières, on doit se préoccuper naturellement, non pas simplement de sa législation domestique, si vous voulez, mais aussi des autres législations étrangères qui peuvent entrer en complément ou parfois en concurrence. Et c'est en cela que je rejoins ce qui vient d'être dit à l'instant. La compliance, c'est aussi pas simplement un outil ou une démarche intellectuelle pour essayer de trouver des solutions quand la loi serait peu claire, mais il arrive aussi assez régulièrement que un certain nombre de lois soient sinon contradictoires, en tout cas qu'il y ait un vrai travail d'harmonisation pour respecter les différentes réglementations qui s'impose à une entreprise.
Marc Langlais, est-ce que ce sont les États qui ont été moteurs dans la mise en place de ces nouvelles lois, de ces nouvelles réglementations, ou est-ce que la société civile, les organisations non gouvernementales ont joué un rôle déterminant ?
Comme toujours, je pense qu'il y a des mouvements des deux côtés, alors après, qui parfois sont accordés et parfois sont désaccordés. Ce qui est sûr, c'est que pour le champ que je connais le moins mal, c'est-à-dire le champ financier, les États ont été très moteurs, et particulièrement les États-Unis, qui sont parvenus, alors pas seulement par l'angle juridique, hein, il y a aussi l'angle conceptuel, intellectuel de la théorie financière qui a quand même été développé outre-Atlantique, mais qui sont parvenus à imposer d'une certaine façon ces logiques dans des aires géographiques et culturelles différentes.
Mais on a plutôt une image des États-Unis, surtout en ce moment, de pays du capitalisme sauvage. Comment concilier cette image-là de capitalisme sauvage, pur, de libéralisme absolu, avec ces lois de moralisation de la vie économique ?
Alors, on peut évoquer différents angles d'analyse. Il y a un angle culturel. Alors, on va pas faire un cours d'histoire, mais...
Non, ce n'est pas lieu, mais en quelques mots.
Des aspects de croyance, de religion, du protestantisme, du puritanisme anglo-saxon, avec un rapport à la loi, à la morale, à la règle, très différent de ce qu'on peut trouver dans les pays latins. C'est pour ça aussi que dans les entreprises françaises, ça peut être parfois, en tout cas ça a été étrange dans le champ dans lequel j'ai travaillé il y a 10 ans maintenant, quand on a importé ces lois, parce que les gens comprenaient pas qu'il fallait tout d'un coup dire ce qu'on faisait, alors que ça paraissait une évidence, et puis aussi faire ce qu'on disait. Donc il y a cette dimension culturelle, premièrement. Après, on peut comprendre la compliance de plein de façons différentes. Si la compliance consiste juste à afficher des engagements et à dire j'ai respecté cet engagement, je pense qu'on manque une partie de la représentation. Pourquoi ça ? Parce que ça peut être plus simple parfois de passer un audit et de dire bah voilà, je suis capable de montrer que j'ai des procédures. C'est pas parce qu'on a des procédures que celles-ci sont respectées d'une part, d'autre part qu'elles font tout sens. Et il peut y avoir un intérêt de temps en temps de se focaliser sur les aspects, on va dire, de communication ou de respect des règles écrites, des apparences, pour le dire plus voilà. Et alors même que l'esprit des lois n'est pas forcément toujours respecté.
Henri Jacques Citroën, vous êtes dans cet entre-deux, oui. vous naviguez là-dedans, l'homme d'affaires oui. que vous êtes.
Oui, la compliance, au cœur de la compliance, il y a la lutte quand même contre la corruption. Et c'est quelque chose qui a commencé depuis longtemps. Dès la fin des années 90, il y a eu un grand accord au sein de l'OCDE qui demandait aux entreprises de se mettre en conformité et de lutter contre ce phénomène. Depuis, il y a des entreprises qui font attention, en particulier, j'allais dire, dans les secteurs qui sont très visibles, comme le secteur pétrolier ou le secteur minier, parce que dès qu'il y a un investissement dans ces domaines, on est tout de suite repéré et vu par les opinions publiques. Donc, ces secteurs que je viens de mentionner, c'est des secteurs où on a déjà fait très attention aux questions de corruption, mais aussi respect de l'environnement et puis au respect des droits de l'homme. Alors ça peut paraître bizarre parce que les compagnies pétrolières ont toujours été extrêmement critiquées. Et moi qui étais conseiller de Total pendant 20 ans, je peux vous dire qu'au Venezuela, c'était une condition sine qua non de la gestion.
C'est-à-dire comment ça se passait ?
Eh bien, on faisait d'abord, il y avait une priorité absolue qui était donnée au refus des sollicitations, parce que quand vous êtes un investisseur et que vous arrivez quelque part, vous attirez énormément de groupes d'intérêt qui viennent vous faire des demandes et des sollicitations diverses. Alors ça peut être les autorités locales, ça peut être les ONG, des associations. Dans le cas du Venezuela, il y avait les milices qui venaient. Et donc on ne peut répondre à aucune de ces sollicitations. Et la seule manière qu'on avait trouvée à l'époque, c'était de mettre en place une politique de RSE,
de responsabilité
sociétale d'entreprise, donc qui permettait de créer des alliances avec les parties prenantes de l'environnement politique et social, dans lesquelles chacun mettait du sien. C'était pas simplement l'entreprise qui finançait telle et telle opération, qui faisait des dons ici et là. Aujourd'hui, une entreprise qui voudrait faire des dons à des associations ou des fondations, parce que la fondation en question présidée par l'épouse du président de la République ne peut plus le faire, parce que tout versement, tout paiement est suspect. Par contre, si on fait ce genre d'investissement social de manière intelligente et bien justifiée, non seulement on est irréprochable légalement, mais en plus de ça, on se rapproche des parties prenantes, et ensuite on peut travailler ensemble. Et grâce à ça, ben vous gagnez la paix sociale autour de vos activités, mais en même temps vous améliorez l'image de l'entreprise. Et donc, pour terminer, parce que vous me posez la question sur comment s'y prendre pour lutter contre la corruption, déjà avant qu'il y ait les lois comme Sapin 2, eh bien c'était un refus catégorique de toute demande qui pouvait venir. Et donc très vite, les gens comprennent, dans le pays où vous êtes, que c'est pas la peine de venir, parce qu'il y aura pas de réponse.
Pas sûr que ce soit partout pareil. On va prendre un premier exemple qui concerne la RDC, la République démocratique du Congo. Le 5 novembre dernier, 9 communautés villageoises ont déposé plainte devant le mécanisme de recours de la Banque allemande de développement. Cette plainte vise l'entreprise Feronia, qui exploite des plantations d'huile de palme dans le nord de la RDC. Feronia est accusée d'accaparement de terres et de mauvaises conditions de travail. La Banque allemande de développement, ou Proparco, filiale de l'AFD, l'Agence française de développement, ont investi dans cette entreprise qui, selon les plaignants, ne respecte pas les droits des populations. C'est un dossier éco-dissier-co d'ailleurs, signé Olivier Roger.
En 2009, le Canadien Feronia rachète à l'anglo-néerlandais Unilever ses plantations congolaises, 100 000 hectares de palmiers à huile. Certaines communautés villageoises s'estiment spoliées et réclament justice, car si l'État congolais est théoriquement propriétaire du sol,
l'État ne peut pas octroyer de contrat ni d'affitteuse ni d'occupation d'une concession sans que les communautés donnent leur consentement.
Jean-François Mombia dirige l'ONG RIAO RDC. Il accompagne les communautés villageoises dans leurs plaintes et pour lui, Feronia aurait dû agir autrement.
Les terres appartiennent aux communautés et ils sont venus occuper ces terres illégalement, donc sans consentement libre préalable comme norme internationale déjà. Donc ils n'ont pas respecté les droits des communautés, même pas des droits de jouissance.
Xavier de Carnière est le PDG de Feronia et pour lui, les baux obtenus lors du rachat de la plantation de Locoutou à Unilever respectent pleinement la loi.
Nous avons repris une société qui avait des titres fonciers qui existaient déjà depuis très très longtemps. Les titres fonciers, ce sont des leasings. Hein. Donc nous sommes locataires de la terre auprès du gouvernement congolais à travers des titres fonciers qui sont renouvelés tous les 25 ans. Pour le renouvellement, il n'y a pas de nécessité d'obtenir un accord des propriétaires historiques de la terre ou de ceux qui se perçoivent comme tels.
En Europe, plusieurs ONG réclament davantage de vigilance, car Feronia est appuyée depuis 6 ans par les institutions de financement du développement, les Français AFD Proparco, l'allemand DEG ou l'anglais CDC. Grâce à elle, Feronia a levé 200 millions d'euros en 6 ans. Maureen Joran est responsable du pôle souveraineté alimentaire à l'ONG CCFD Terre Solidaire.
Ce qu'on observe, nous, c'est que les violations perdurent. L'AFD Proparco est une agence qui s'est engagée à ne pas financer de projets qui génèrent des accaparements de terres. Mais quand, après, on va projet par projet, on voit bien que tous ces cadres et ces règles ne sont pas automatiquement appliqués sur les projets et que, par exemple, si on avait eu une attention particulière sur le foncier dans ce projet, on aurait bien vu qu'il y avait une contestation depuis plusieurs dizaines d'années sur les plantations qui étaient ciblées par le projet.
La question de la terre n'est pas le seul problème. Les conditions de travail médiocres, les salaires insuffisants sont dénoncés par les ONG qui ont poussé les agences de développement à demander des comptes. Pierre Forestier, directeur en charge du développement durable chez Proparco, affirme que c'est sous la pression de ses partenaires que Feronia a mis en place un plan d'action de plusieurs millions de dollars par an pour améliorer la vie des travailleurs et des populations locales.
Il y a un comité qui est en charge de toute la mise en place de ce plan d'action sur les questions environnementales et sociales, qui est très proche de l'entreprise. Il y a un directeur au niveau de l'entreprise qui est en charge de ces questions de mise en place environnementale et sociale. Et ce comité a pour fonction, en mobilisant des experts, des auditeurs, etc., de regarder comment il est déployé, comment il se passe, et évidemment pour constater les manquements, les retards, s'il y en a, mais aussi les avancées. On a derrière un dispositif qui nous permet d'être le plus proche possible de l'évolution et de l'arrêté sur le terrain.
Si des mécanismes ont été mis en place pour contrôler l'utilisation des fonds, ils sont encore trop laxistes, jugent les ONG. Ce n'est pas l'avis de Feronia, Xavier de Carnière, PDG de l'entreprise.
Je pense que nous sommes la société la plus auditée du monde. D'une part, parce que nous sommes au Congo qui souffre d'une réputation de corruption énorme. D'autre part, parce que nous avons 4 pays européens impliqués dans notre financement et que tous ces pays européens sont soumis à une pression politique énorme pour la bonne utilisation de leurs fonds. Donc, on est très souvent dans des situations dans lesquelles on doit prouver qu'on ne fait pas certaines choses, ce qui est toujours très compliqué et malheureusement assez coûteux.
C'est un reportage donc signé Olivier Roger dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Nous parlons de la mise en conformité, de la compliance, de l'obligation faite aux entreprises de respecter des règles éthiques, des sanctions encourues. Nous allons en parler, tout cela avec 3 invités. Marc Langlais, professeur associé à Neoma Business School. Fabien Ganivet, associé du cabinet international d'avocats Adela Piper. Et Henri-Jacques Citroën, senior vice-président du cabinet Adito. Henri-Jacques Citroën, vous vouliez réagir à ce reportage, que ce sont des situations que vous avez rencontrées au Venezuela?
Oui, ou ailleurs. C'est sûr qu'il y a des abus qui sont constatés un peu partout, surtout par des entreprises qui viennent de pays qui ne sont pas aussi réglementés que nous. D'ailleurs, pour éviter ce genre de situation qui vient d'être décrite dans le reportage, en France, on a promulgué une loi, il y a 2 ans, la loi du devoir de vigilance, qui oblige les entreprises de plus de 5000 salariés à s'organiser pour que dans toutes ces actions, toutes ces activités, soient respectés les droits de l'homme, les droits de l'environnement et toutes les conditions d'hygiène qui permettent aux travailleurs de fonctionner de manière, normale. Et donc, juste pour rebondir sur le reportage, il y a peut-être quelque chose qui s'est produit dans le cas de cette situation tendue, c'est que peut-être que l'entreprise qui s'est présentée dans ce pays n'a pas fait une cartographie des risques, c'est-à-dire elle n'a pas contacté les parties prenantes de l'environnement politique et social
local,
de manière exhaustive locale, pour savoir qui est qui fait quoi, qui influe sur qui, quelles sont les attentes des gens vis-à-vis de l'entreprise. Parce que s'il n'y a pas un tel dialogue qui s'installe entre l'investisseur et les populations locales, les autorités locales, sans ce dialogue, les tensions peuvent être grandes parce qu'il peut y avoir mésentente.
Fabien Ganivet, vous, en tant qu'avocat, vous conseillez des entreprises comme Ferronia, pas celle-là, mais certainement d'autres. Quels sont les conseils que vous leur donnez pour éviter ce genre de situation ? On entendait parler de coûts, d'experts. Est-ce que c'est quelque chose que vous gérez, vous, ça ?
Alors, évidemment, c'est des choses que l'on prend en compte dans la réflexion. Mais avant de répondre directement à votre question, en contrepoint de ce qui vient d'être dit, je crois que c'est une excellente illustration de ce dont on parle, c'est-à-dire qu'on parle de sujets extrêmement sérieux, les atteintes à la probité, les droits humains, la protection de l'environnement. Et donc, ça m'amène à dire que par rapport à la définition que nous essayons de brosser ensemble de ce que contient la compliance, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la compliance, c'est pas du cosmétique. Il faut vraiment comprendre que là, on est sur des sujets à enjeux extrêmement forts, extrêmement puissants pour les entreprises, pour les individus. Et il faut prendre conscience, vous m'interrogez il y a un instant sur l'origine de la législation américaine, en définitive, vous prendre conscience, je crois, aujourd'hui, de la lame de fond qui a lieu en Europe et singulièrement en France, effectivement, depuis l'adoption en particulier de la loi Sapin 2, à laquelle faisait référence Jacques-Henri Citroën il y a un instant. Donc pour venir directement au point sur lequel vous m'interrogez, bien évidemment, quand on est avocat, on est conseil, on n'est pas simplement là, j'allais dire, pour faire de la technique juridique, mais aussi pour accompagner les entreprises dans leurs enjeux globaux en termes de stratégie. Et j'ai envie de dire, sans me payer de slogan, mais que l'entreprise durable, c'est l'entreprise éthique. Mais y compris quand vous êtes avocat et que vous conseillez l'entreprise sur un certain nombre de décisions importantes à prendre, vous regardez pas simplement le contentieux ou le précontentieux en cours, vous essayez d'accompagner les dirigeants, justement, dans ce que vous pensez être, finalement, au confluent du droit, de l'économie, d'un certain nombre d'autres enjeux, la meilleure décision à prendre au regard des différents paramètres que l'on vient d'évoquer.
Marc Langlais.
Oui, je souscris à ce qui est dit ici. Je pense qu'en fait, une des grandes difficultés du sujet, si on essaie de poursuivre ce travail de définition, qui à mon avis est vraiment nécessaire, c'est on voit bien le prisme extrêmement large des sujets qui peuvent être couverts sur des questions de corruption, sur des questions de respect de la règle qui sont pas forcément aussi dévastateurs que la corruption, sur des questions de lutte contre le blanchiment, sur des questions de droit d'alerte, tous ces sujets-là, et donc forcément au-delà sur des questions d'éthique et de morale. Peut-être que une bonne porte d'entrée, c'est la question des parties prenantes, telle qu'elle était, évoquée ici.
Par Henri-Jacques Citroën.
Par Henri-Jacques Citroën. La notion de partie prenante est parfois un peu le parent pauvre, alors même que c'est un marronnier théorique. Et avoir la faculté à faire parler les acteurs concernés.
C'est-à-dire, en l'occurrence, dans ce reportage, les villageois.
Exactement, les villageois. Mais les villageois, c'est une catégorie très large, comme ça. Faut aller y voir. C'est quoi, les villageois? Parce qu'au sein des villageois, il y a peut-être des rôles, il y a peut-être des sensibilités diverses. C'est un travail extrêmement besogneux qu'il faut faire, vous voyez. Et au-delà des grands discours, comme il peut y avoir, il y a régulièrement des conférences, il y en a eu une il n'y a pas longtemps à Paris sur, par exemple, éthique et finance ou éthique et entreprise. Cette façon-là d'aborder le sujet me semble finalement assez peu intéressante tant qu'on n'a pas des cas concrets, des cas de pratiques ordinaires qui montrent à quel point cette lame de fond, elle existe parce qu'il y a une volonté institutionnelle de faire en sorte qu'il y ait davantage de cadrage et il y a aussi des puissances qui sont pas forcément toujours favorables à ce cadrage normatif qui représente un coût. Et de l'autre, la réalité de ce que peuvent vivre des entreprises, des villageois qui, d'une certaine façon, des deux côtés, pensent être dans leur bon droit, et donc la question qui se pose, c'est comment fait-on pour réconcilier ces différentes vues, tant qu'on les a pas décrites et qu'on n'a pas fait l'effort d'aller essayer de les vivre, je pense que c'est très compliqué. Il y a des gens qui font de la recherche là-dessus, notamment sur les questions de RSE et d'interculturalité, et voilà.
Fabien Ganivet, est-ce que ça veut dire la mise en place d'équipes nombreuses, d'experts nombreux? C'est ce qu'on entendait dans le dossier d'Olivier Roger. Est-ce que c'est très coûteux, tout ça?
Alors précisément, c'est le sujet, et j'ai envie de dire que j'aimerais que nous ne tombions pas dans l'écueil qui consisterait à considérer que la compliance est d'abord et avant tout une contrainte. Bien évidemment, lorsque vous m'interrogez sur mes activités de conseil et que je vais effectivement conseiller des dirigeants d'une entreprise, puisque c'est d'abord et avant tout sur les dirigeants d'entreprise que pèse la responsabilité de mettre en place ces programmes de compliance et de conformité, évidemment, à court terme, c'est des équipes, c'est de l'argent, c'est de l'investissement, mais précisément, c'est de l'investissement à moyen et long terme. Et je suis absolument convaincu que si on réfléchit au problème de manière générique, globale, on verra assez rapidement non seulement que le coût à court terme est très largement amorti par effectivement ce que la compliance peut apporter de tout à fait positif.
Mais ce coût est important ?
Ce coût est important à l'échelle d'une entreprise. C'est vous avez des budgets qui sont alloués à la communication, vous avez des budgets qui sont alloués au développement des carrières, vous avez un budget qui est alloué à l'éthique et la conformité. C'est pas une variable d'ajustement. Je crois que véritablement aujourd'hui, il faut réconcilier les logiques de business et les logiques précisément éthiques. Et quand je prononce ce mot éthique, c'est pas porter un jugement moral. C'est vraiment l'expression d'une conviction où je pense encore une fois que l'entreprise qui entend se maintenir durablement sur un marché, de toute façon, doit se conformer à ces règles. Je ne crois plus effectivement dans le monde dans lequel nous vivons, de transparence, d'interdépendance, etc., qu'il y ait une quelconque plus-value naturellement à des comportements qui aujourd'hui n'ont plus droit de cité, si vous voulez. Au contraire, c'est quelque chose qui est tout à fait valorisé. Je ne connais pas de salarié qui se lève le matin en ayant envie de venir travailler dans une entreprise qui fera la une de la presse parce que pris dans une affaire de pot de vin ou que sais-je. Donc encore une fois, la compliance, c'est d'abord et avant tout une manière aussi d'éviter des difficultés, mais je crois que vraiment aussi en termes d'image, de bien-être social dans l'entreprise, c'est quelque chose qui doit être absolument valorisé.
Henri-Jacques Citroën.
La mise en place de toutes les règles de lutte contre la corruption a certes un coût, mais un coût pour la mise en place. Une fois que les dispositions sont mises en place, après, ça devient de la gestion, mais c'est un coût qui est très relatif. Je veux dire, pour une entreprise taille moyenne, moyenne grande, ça peut être quelques dizaines de milliers d'euros. Donc, par rapport à d'autres budgets, c'est quand même assez marginal. Mais comme disait quelqu'un, il y a une phrase qui résume bien la situation du coût, c'est « Vous trouvez que la compliance est chère, mais essayez la non-compliance ». Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si vous ne mettez pas en place toutes les règles qui sont imposées par les lois, vous allez être probablement victime à un moment ou à un autre d'un fait de corruption du fait d'un employé ou fournisseur, etc. Et là, ça va vous coûter cher parce que vous allez avoir des procès, vous allez avoir des amendes, vous allez avoir des emprisonnements. Donc c'est pour ça que cette phrase « essayez la non-compliance », là par contre, là, ça peut vous ruiner. Il suffit de voir d'ailleurs les amendes qui sont imposées par le département de justice américain. Dès qu'ils trouvent qu'il y a une opération suspecte de telle ou telle entreprise quelque part, on a vu le cas en France, un certain nombre d'entreprises qui ont dû payer.
De la BNP Paribas,
par exemple,
la Société Générale.
Et c'est souvent des dizaines, des centaines et même de millions de milliards, de dollars.
Ouais.
Et même parfois des milliards de dollars qui sont imposés aux entreprises, parfois les entreprises américaines aussi, hein, il n'y a pas que les entreprises étrangères. Donc je voulais dire simplement, c'est que, pour terminer, c'est que ce qui est souvent difficile et coûteux, c'est cette analyse de toutes les parties prenantes de l'entreprise, parce que les lois aujourd'hui et la bonne pratique des affaires vous obligent à bien connaître toutes les parties prenantes. Donc il faut que vous connaissiez vos fournisseurs, vos clients, Et vos partenaires. Et quand vous êtes une entreprise, une grande entreprise, par exemple, l'autre jour, il y a une grande entreprise CAC 40 qui est venue nous voir et qui dit « Mais j'ai 120 000 fournisseurs, je fais comment pour les vérifier ?» Bon, il y a des méthodes qui existent maintenant, mais...
Quel genre de méthode ? Quand on a 120 000 fournisseurs, comment on fait pour les contrôler tous ?
Avec le client, on classe les fournisseurs parce que toutes ne représentent pas le même risque. Celui qui vous livre le papier pour la photocopieuse... ne représente pas le même risque que celui qui produit tel ou tel composant, tel ou tel intrant dans un pays qui est connu pour la corruption. Donc, alors, ce que l'on fait, c'est quand on est abonné à toutes les bases de données qui existent dans le monde, pour faire cette vérification, on regarde déjà trois critères. Est-ce que dans l'entreprise qui est à vérifier, chez les fournisseurs qui sont à vérifier, est-ce qu'il y a des personnes qui sont politiquement exposées ? C'est-à-dire, est-ce que parmi les dirigeants ou les actionnaires, il y a des personnes qui ont des liens amicaux ou familiaux avec les dirigeants de l'État du pays en question ? Là, c'est la première chose. Deuxièmement, on regarde s'il y a des mentions négatives dans les réseaux sociaux ou sur Internet. Et troisièmement, si l'entreprise a fait l'objet de, ou ses dirigeants a fait l'objet de sanctions. Déjà, avec ça, vous faites un premier maillage et vous voyez s'il y a des lumières oranges ou des lumières rouges qui s'allument.
Bon. Alors, il y a une entreprise qui n'a probablement pas fait ce travail et qui a essayé la no compliance, c'est la société française Lafarge. À l'époque, c'était une société purement française avant de fusionner avec le Suisse Holcim. Et Lafarge est accusée d'avoir financé le groupe Daesh en Syrie pour pouvoir poursuivre son activité à partir de 2014. Écoutez cette réaction de maître William Bourdon de l'association Sherpa. C'était il y a pile un an au micro d'Agnieszka Kumor du service économique de RFI.
Dans cette procédure, il y a une dimension qui me fait penser qu'il s'agit d'une histoire très française. On a tous les ingrédients d'une espèce d'effet de miroir, où d'un côté, du côté de Lafarge, un groupe parmi les plus puissants de la planète, on a une attitude, un comportement qui trahit un très grand mépris pour l'autorité judiciaire. Parce qu'il faut avoir un certain mépris ou être hors sol, comme on le dit, pour avoir organisé, suivant une méthode qui fait plutôt penser à des méthodes de voyous, le nettoyage des preuves. Et à ce mépris pour l'autorité judiciaire, en écho, il y a quelque chose qui est la signature d'une forme de culture judiciaire dans ce pays, qui est aussi une culture politique. Oui, les juges d'instruction ont avancé depuis 20 ou 30 ans. Oui, il y a un mur de verre de l'impunité qui s'est ébréché, mais il s'est ébréché seulement. Et quand il s'agit des grands groupes, il y a une forme de tétanisation, de timidité, de frilosité, voire de complaisance qui pourrait, suivant l'évolution de l'enquête, caractériser une forme de complicité de l'État. C'est ça la gravité de ce dossier.
Un maître William Bourdon, Marc Langlais, il semble un peu contredire tout ce qui vient d'être dit ici en disant ben, les grands groupes sont encore dans d'une certaine manière dans l'impunité.
Ben, je pense qu'il faut distinguer déjà les secteurs d'activité. Si vous regardez le champ financier, qui a été très tôt sensibilisé à ces questions-là pour des questions d'activité, hein, en finance on manipule de l'argent, les masses salariales que représentent les fonctions de compliance, de conformité aujourd'hui sont assez élevées en France, on est sur 1 à 2% de la masse salariale. Moi quand j'ai commencé à travailler il y a 15 ans, on était 3 au niveau d'un holding bancaire d'un grand groupe. Quand je suis parti 3 ans après, on était 40, et en salle de marché on était encore plus.
Et aujourd'hui, ils sont combien ?
Oh, je ne saurais pas vous le dire, parce que ça fait quelques années que... Mais je pense qu'un groupe qui a 150 000 employés a sans doute entre 2 000 et 3 000 personnes qui font de la compliance ou qui sont d'une certaine façon, dans leurs activités, amenées à pour l'essentiel du temps, à travailler sur ces sujets-là.
Fabien Guénivet, vous corroborez ces chiffres ?
Approximativement, oui, j'ai à peu près les mêmes en tête, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'encore une fois, sans vouloir être l'optimisme de service invétéré, moi j'ai une vision beaucoup plus positive et beaucoup plus dynamique de la compliance. Encore une fois, moi je vois d'où l'on part, d'où l'on vient, et encore une fois, dans toutes les entreprises que je conseille, honnêtement, autant il y a quelques années la compliance c'était un sujet de colloque, aujourd'hui c'est les travaux pratiques, et je dois dire que je passe mes journées à effectuer des éléments d'analyse technique ou juridique au service de ces entreprises, mais finalement pas à les convaincre que la compliance c'est un élément absolument nécessaire. Encore une fois, sur le plan du changement culturel, moi je suis tout à fait convaincu que les choses ont extrêmement évolué ces dernières années et que ça va croissant.
Marc Langlais ?
Oui, pour répondre et compléter, je suis tout à fait d'accord. Hein. Et ce changement culturel, il est en cours. Ce que je voulais dire en mentionnant le secteur financier par rapport peut-être à Lafarge, c'est que il y a des secteurs qui viennent plus lentement, mais la très grande majorité des personnes y voient l'intérêt à long terme. Et de toute évidence, cette compliance, c'est davantage un coût économique qu'autre chose. C'est-à-dire en fait l'opportunité de ne pas perdre de l'argent et des masses phénoménales. Donc l'intérêt partagé et commun va dans le sens de la compliance. C'est une évidence.
Henri-Jacques Strohan.
Dans le cas de Lafarge en Syrie, je connais un peu Lafarge, je les ai conseillés au Venezuela pendant des années. J'ai du mal à comprendre qu'il n'est pas donné, comme le font souvent des compagnies comme Total, la priorité à la protection du personnel. Parce que au début, quand la cimenterie démarre en 2011, les troubles viennent de commencer en Syrie. Mais au début, Daesh ou Al-Qaïda n'étaient pas encore repérés comme étant acteurs dans la zone. Assez vite, au bout d'un an ou deux, on a commencé à voir qu'ils étaient dans le pays. Donc c'est bizarre, c'est qu'il n'y ait pas une analyse approfondie qui a été faite, ou s'il a été faite, qu'elle n'était pas prise en compte. Mais Ce qui est étonnant, c'est de voir que le personnel expatrié, lui, on l'a protégé, effectivement. Il a été rappelé au siège. Mais le personnel local, on l'a laissé. Et il a dû s'échapper, vraiment, je crois, une demi-heure avant que Daesh n'arrive. Donc c'est quand même assez étonnant de voir ce qui pourrait s'appeler une négligence.
Alors, l'une des institutions créées par la loi Sapin 2 de 2016, dont vous parliez, Henri-Jacques Citroën, en France donc, c'est l'Agence française anticorruption, dont le patron affirmait au mois d'octobre 2017, je cite, « Il faut éviter que les cabinets d'avocats anglais ou américains s'invitent dans nos entreprises, donc françaises, et que les décisions de justice servent à de l'espionnage industriel. » Fabien Ganivet, vous, l'avocat d'un cabinet international.
C'est un condensé d'un propos qui est plus vaste. L'enjeu de mon point de vue est le suivant. Il est double. Là, ce dont il était éventuellement question, c'est ce qu'on appelle le monitoring. Effectivement, aux États-Unis, et ça arrive progressivement en France, lorsque vous avez effectivement une grosse affaire, par exemple, de corruption, il y a une possibilité de le juger par la voie classique. Et en France, on a connu un certain nombre d'informations judiciaires qui duraient le temps qu'elles duraient et qui aboutissaient à un jugement, le cas échéant, correctionnel. Vous avez désormais un outil créé par la loi Sapin qui s'appelle la CJIP, la Convention judiciaire d'intérêt public, qui est l'équivalent français des transactions pénale à l'américaine, ensuite de quoi l'entreprise effectivement doit payer une amende souvent particulièrement forte pour répondre des faits qui lui sont reprochés, et s'ouvre une période donc dite de monitoring qui est en fait une période où l'entreprise est sous surveillance judiciaire. Donc effectivement, aux États-Unis, pendant cette période-là, peuvent être nommés par le département de la justice américain un certain nombre de cabinets d'avocats, mais pas simplement, hein, en tout cas un certain nombre d'experts pour aller investiguer la société, pour s'assurer effectivement en faisant des rapports réguliers de ce que non seulement elle a payé l'amende, ça c'est acquis, mais que pour l'avenir, elle s'est mise en ordre de marche par rapport aux règles de compliance. Ensuite, sur l'aspect plus international du sujet, encore une fois, cabinet français ou internationaux, j'allais dire, peu importe au sens où on travaille pour l'essentiel tous pour des entreprises qui ont une dimension internationale. S'agissant plus particulièrement des entreprises françaises, bien évidemment, c'est pas la question d'être dans un cabinet français, américain, anglo-saxon, etc. C'est la question de la souveraineté, j'allais dire nationale et la souveraineté juridique, mais également des secrets de fabrique qui président. Il est bien évident que tout ça part de loin dans un certain nombre d'affaires bien connues. Les Américains, parce que c'était la législation la plus puissante au monde et finalement la seule, ont eu tendance à une certaine époque à s'ériger en quasi-gendarme du monde et sous couvert de vouloir réguler pour mieux régner, en définitive, eh bien, on pourrait considérer que derrière des enjeux à caractère moraux, il y avait aussi évidemment une stratégie économique claire qui était présente. Bah, c'est ce que je résumerais finalement, et je ne suis pas du tout l'auteur de cette pensée, mais il y a ce qu'on a appelé aux États-Unis le lawfare. C'est la guerre économique par l'instrument juridique, c'est-à-dire que avec ce que l'on mentionnait tout à l'heure, c'est-à-dire l'extraterritorialité, la portée au-delà de l'échelle nationale d'un certain nombre de législations ou d'un certain nombre de juridictions. Vous savez qu'aux États-Unis, par exemple, un simple paiement en dollars peut vous rendre justiciable de la justice américaine, quand bien même il n'y a aucun Américain qui est impliqué dans la transaction.
Et quand bien même, ça n'a pas lieu aux États-Unis.
Exactement. Donc vous voyez qu'il y a des outils législatifs ou jurisprudentiels extrêmement puissants. Et c'est vrai que on a pu soupçonner qu'dans un certain nombre de cas, c'était finalement aussi un moyen assez commode pour, je ne dirais pas s'ingérer, mais en tout cas s'intéresser de près à des entreprises européennes. Mais par exemple, quand on regarde, il y a eu un rapport extrêmement documenté qui a été publié par l'Assemblée nationale il y a 2 ou 3 ans par Karine Lelouch et Pierre Berger, qui a bien expliqué les choses. Et de mémoire, je crois que les chiffres qu'il citait étaient de 2016. Et sur 17 entreprises qui ont été sanctionnées au titre de violation du FCPA,
donc par les Américains,
à des sanctions de plus de 100 millions de dollars, donc on parle quand même d'échelle tout à fait grande. Effectivement, il y en avait une grande majorité, il y en avait une dizaine qui étaient européennes et simplement 5 américaines. Et comme par hasard, de mémoire, aucune chinoise. Donc on voit bien que là derrière, il y a des stratégies économiques qui se dessinent. Et comme par hasard, en 2018, au début de l'année, la Chine réagit, a créé une grande loi dite de supervision. Et voilà, sans prétendre lire dans le marc de café, on peut imaginer que assez rapidement, un certain nombre d'autres grands pays, au-delà des États-Unis, de la France, de l'Angleterre, etc., se mettent au diapason et essayent effectivement de pousser cet instrument juridique de l'extraterritorialité pour s'intéresser à des entreprises qui ne sont pas forcément des entreprises nationales.
Mais ça va devenir ingérable, cette situation, puisque si tout le monde a des normes américaines, chinoises, françaises, britanniques...
Je ne dirais pas cela, parce que précisément ce que l'on constate, c'est que la plupart de ces normes se rapprochent en définitive. Lorsque l'on analyse par exemple l'article 17 de la loi Sapin, sans être trop technique, mais grosso modo c'est l'inventaire des 8 principaux piliers d'un programme de compliance, et lorsque l'on le rapproche finalement des prérequis du FCPA ou du UK Barbary Act, finalement on est exactement dans les mêmes principes à respecter, et c'est assez logique. Ce sont des normes aussi qui ont été discutées au niveau de l'organisation internationale, de l'OCDE en particulier. Après, il y a un certain nombre de normes de un peu moins contraignantes qui sont en discussion. J'ai un peu moins contraignantes au sens elles proviennent pas des États, donc elles n'ont pas une portée impérative au sens strictement juridique. Mais on voit bien que l'avenir est plutôt un système de convergence plutôt que d'éclatement. Donc de ce point de vue-là, j'allais dire c'est aussi plutôt une bonne nouvelle pour les entreprises qui agissent à l'international. S'agissant plus spécifiquement de la loi Sapin, comme on peut penser que c'est sans doute une des lois les plus exigeantes au monde, une entreprise française qui agirait à l'international tout en respectant les purs de la loi Sapin, j'allais dire à 90%, se met dans les clous à la fois du FCPA et d'un certain nombre d'autres législations, avec bien sûr quelques ajustements locaux.
Jacques,
on est juste un petit peu en arrière pour donner une précision sur ce qu'on a appelé le monitoring, qui est imposé quand on est condamné par le département de justice américain. Le monitoring consiste à avoir dans son entreprise pendant, je crois, 3 ans, quelqu'un qui a le droit de rentrer dans tous les bureaux et de vérifier ce qui se passe dans l'entreprise, et qui est payé en plus ça par l'entreprise.
Donc mais ça, qui est au ça service permet, des États-Unis.
Voilà, ça permet donc effectivement de facto de savoir ce qui se passe dans l'entreprise. Ce que je voulais dire aussi, c'est que l'importance d'être en conformité et d'éviter donc qu'il y ait des cas de corruption permet de ne pas donner des moyens de pression à des entreprises concurrentes ou à des États concurrents. Je vais donner l'exemple que tout le monde connaît, celui d'Alstom. Alstom se fait repérer par les Américains au début des années 2000 dans une affaire qui était négociée en Indonésie. Paradis, les Américains ont l'impression qu'il y a des enveloppes qui sont données sous la table, ils ne disent rien. Et au bout d'une dizaine d'années, ils arrêtent le directeur commercial qui était impliqué dans cette affaire, le mettent en prison, ça a fait du bruit, et puis ça a permis aux Américains de faire pression sur Alstom pour que Alstom vende les divisions qui intéressaient General Electric à General Electric. Il y a un documentaire très détaillé qui a été diffusé à la télévision française il y a un an, dans lequel on voit tout le mécanisme. Donc, découvrir des faits de corruption, c'est donner aux concurrents des moyens de pression sur l'entreprise et puis sur les États dans lesquels duquel vient l'entreprise.
Alors on va prendre un nouvel exemple, le dernier de cette émission, puisqu'on approche pas à pas de la fin de cette émission. Une douzaine d'entreprises finlandaises installées en Équateur viennent de signer un engagement pour l'éthique et la transparence avec le gouvernement de Quito. L'idée est de faire de cette initiative un modèle de comportement pour les autres compagnies transnationales du pays. C'est un peu la conséquence du scandale Odebrecht du nom de l'entreprise brésilienne qui a corrompu des hommes politiques dans toute l'Amérique latine. En Équateur, la révélation de ce scandale a provoqué la fuite de nombreux fonctionnaires, des ministres et des procureurs. Un ancien vice-président est en prison. L'Équateur souhaite que les principes de la compliance acquièrent plus d'importance, mais il y a encore beaucoup à faire. Un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Eric Sanson à Quito.
Le ministère équatorien des Affaires étrangères souhaite que les Nations Unies aident l'Équateur à se doter d'un code de comportement dont le respect serait obligatoire pour les entreprises transnationales. Selon des études de la Banque interaméricaine de développement, de l'OCDE et de l'Union européenne, le pays perd tous les ans 3,5 milliards d'euros en corruption et une somme équivalente en gaspillage ou dépenses somptuaires inutiles. Pourtant, côté légal, L'Équateur est comme de nombreux pays. Il a les textes suffisants pour contrôler les activités des grandes compagnies locales ou étrangères. Mais seulement en théorie, selon Farid Simon, recteur de la faculté de jurisprudence de l'université San Francisco de Quito.
Le problème en Amérique latine en général et en Équateur en particulier n'est pas le manque de régulation, mais la difficulté à faire appliquer la loi. Les institutions chez nous sont affaiblies par une vieille tendance à ne pas nommer les meilleurs, mais les plus proches du pouvoir.
Un diagnostic que partage l'économiste Arturo Paredes.
C'est nécessaire une...
Il faut que les organismes de contrôle se restructurent, que les personnes au pouvoir ou ayant de l'influence récupèrent leurs valeurs et agissent moralement en fonction de l'intérêt public. Malheureusement, nous en sommes très loin.
Après les séquelles du scandale Odebrecht dans des pays comme l'Équateur et le Pérou, de nombreuses entreprises souhaitent redorer l'image de marque du secteur, un désir pas vraiment nouveau, selon Arturo Paredes.
Les entreprises ont toujours eu cette préoccupation. Maintenant, ce qu'elles faisaient jusqu'à présent était de rechercher des certifications internationales, par exemple celles offertes par l'Organisation internationale de standardisation avec l'ISO 9000 pour la qualité ou l'ISO 14000 pour le respect de l'environnement.
Cette recherche d'indicateurs est souvent encore une question d'image, car en Équateur, l'État n'oblige à rien, surtout en ce qui concerne les transactions entre particuliers. Demain, les choses pourraient pourtant changer, selon Farid Simon.
Je crois que la compliance est une nouvelle option pour déterminer si les entreprises respectent toute une série de standards qui les autorisent à signer des contrats avec l'État. À l'Université San Francisco de Quito, nous travaillons durement pour créer un programme d'études basé sur la compliance. C'est une notion qui couvre de nombreux aspects.
L'université souhaite également former une équipe d'experts qui, à terme, pourrait aider les compagnies locales.
Il n'y a pas une demande directe des entreprises, mais je crois qu'il est dans l'intérêt national de pousser le modèle compliance qui est en train de faire ses preuves ailleurs dans le monde. Je crois que bientôt les compagnies équatoriennes devront respecter les normes de compliance pour pouvoir travailler.
Une prise de conscience qui pourrait être l'un des rares points positifs du scandale Odebrecht.
Un reportage signé Eric Sanson à Quito. Marc Langlais, est-ce que cette démarche d'entreprise finlandaise en Équateur est commune, générale ?
D'une certaine façon, on pourrait le dire comme ça. Ce que je trouve intéressant dans ce qu'on vient d'entendre, c'est que finalement, avec la compliance, plus que... En référence aux simples normes RSE, il y a une dimension incitative, il y a un lien beaucoup plus fort avec des mécanismes coercitifs, et je pense que la compliance va probablement parvenir à des résultats plus intéressants que simplement des signatures au bas de papier dans lesquelles on s'engage à respecter des principes qui ne sont malheureusement pas forcément, enforced, comme on dit en anglais.
Fabien Ganivet, je voudrais élargir un peu le débat pour cette dernière minute d'émission. Comment, dans une société internationale dominée par des Trump, des Poutine, des Erdogan, peut-on croire à la domination de l'éthique dans l'économie mondiale ?
Question aisée pour terminer, en effet. Ce que je dirais simplement au regard du dernier exemple que vous avez diffusé, c'est que naturellement, la compliance, c'est l'affaire de tous. C'est pas simplement l'affaire des acteurs économiques et des grandes entreprises, mais c'est aussi naturellement l'affaire des citoyens et l'affaire des États. Quand je pense aux citoyens, je pense en particulier aux lanceurs d'alerte, mais aussi aux salariés qui doivent se sentir au quotidien impliqués dans ces sujets. Et puis naturellement, des États pour donner l'impulsion et pour effectivement, ne serait-ce qu'en termes de coopération internationale, en matière d'établissement de standards internationaux de référence doivent absolument jouer leur rôle.
Henri-Jacques Citroën, voilà. Deux mots.
Voilà. Donc il faut que les entreprises intègrent les aspects de la compliance dans la gestion de leurs affaires et les réflexes des employés en conséquence. Et ce qui est important, c'est que les directions des entreprises donnent la bonne impulsion pour que ça devienne une manière de vivre et d'agir pour l'entreprise.
Eh bien, c'est le mot de la fin. Cette émission est maintenant terminée. Merci à vous trois, Henri-Jacques Citroën, Marc Langlais, Fabien Ganivet, d'avoir accepté l'invitation de RFI. Vous pouvez nous réécouter sur le site internet www.rfi.fr ou sur l'application Pure Radio de votre smartphone. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques. We'll be right back.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.